Vous écoutez
RMC.
RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Gérard Farizon et de Franck Tabanou, bienvenue dans le podcast After Saint-Étienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts. Avec aujourd'hui, et ça c'est quand même... Il y a que l'after qui peut faire ça quand même. Frédéric Piquion, un ancien Vert dans le podcast After Saint-Étienne. Salut Fred.
Salut Gilbert, salut à tous.
Joss Randall est avec nous également, avec nous même physiquement. Salut Joss.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et très content d'être avec vous.
Évidemment, Joss Randall du site peuple-vert.fr. Est-ce qu'on parle souvent de Fred ou est-ce qu'on parlait souvent de Fred sur peuple-vert? Oh, tu n'existais pas peut-être à l'époque.
Si, j'existais. Le site existait pas forcément, mais oui, on parle de Fred à Saint-Étienne, bien sûr.
Bon, alors, on a les stats là, je sais pas si c'est les bonnes. Hein. C'est Wikipédia qui nous les donne. 101 matchs, Fred avec Saint-Étienne en 3 saisons, 28 buts.
Un tiers.
Ça va, t'es content de ton
un
bilan
but, 3 matchs. Ouais, moi je suis très content.
On a connu pire et dans des périodes encore assez récentes. Hein. Voilà. Suivez mon regard.
Bah, il t'a laissé quoi comme souvenir là? Je sais pas, un truc.
Ouais, moi j'aimais bien cette époque-là. Enfin, ça jouait.
La 2004-2006, ouais, c'était très sympa. Très sympa.
Ça jouait, il y avait des vrais créateurs de foot. Il y avait Pascal, ça jouait bien au foot. Moi j'aimais bien.
Didier Zokora.
Ouais, Zokora.
Ah, c'est Fendouno qui te faisait les centres.
Pascal. Ah, mais ouais. Ça c'est. Enfin, les yeux fermés.
Oui. Techniquement, il était très impressionnant, Fendouno.
Ah, ouais, ouais.
Au-dessus, ouais.
Au-dessus. Après, du long. Sacré joueur de foot.
S'il avait converti la moitié de son talent en efficacité.
Ouais,
il aurait marqué 1000 buts comme Pelé, le mec.
On va dire qu'il avait choisi un style de vie, Pascal.
Voilà. on va dire ça comme ça.
Hein,
ouais, je pense que franchement, c'est un joueur qui aurait pu jouer dans un top 10.
Absolument.
Européen.
Absolument.
Facile.
Alors, l'évaluation de l'after, évidemment, après la défaite à Reims ce week-end, et puis deux débats à suivre. Quelle est aujourd'hui la vraie valeur de l'équipe? Parce que finalement, on peut se poser la question. Il y a eu une très bonne phase, des matchs moyens où ça perdait pas, et puis là, il y a quelques défaites à l'extérieur. Et puis, êtes-vous séduit par le jeu? Parce que c'est ça aussi qui intéresse les supporters, c'est de se faire plaisir, de se dire, tiens, on va se régaler, quel que soit le score, parfois. On va en débattre, bien sûr, tout de suite dans le podcast After Saint-Étienne ensemble. Alors, la défaite à Reims, évidemment, c'est la deuxième d'affilée à l'extérieur, d'ailleurs, pour les Stéphanois. Un taulier, un boulet. Joss, est-ce que tu as un petit taulier à nous soumettre?
Difficile sur ce match-là, parce que c'était...
J'ai mis Camara, moi, mais un peu par défaut.
Oui, Camara... J'ai du mal à sauver quelqu'un, en fait, sur ce match. Et à la limite, j'ai presque envie de sortir un de ceux qui sont rentrés, justement pour mettre en relief le fait que je pense que Claude Puel s'est trompé sur sa compo, en fait. Et je mettrais bien Romain Amouma, par exemple.
Ah, toi, tu penses qu'il aurait dû démarrer avec Amouma?
Oui, c'est tout le débat à l'heure actuelle dans le microcosme stéphanois, c'est que personne n'a compris pourquoi il a rebattu toutes ses cartes après ce qui a été pour moi le meilleur match de la saison contre Nice.
Ouais. Voilà.
Avec du jeu, avec des élans offensifs, avec des mecs qui courent, avec un système enfin à 4 derrière.
Enfin, c'est la psychologie du coach. Le mec, il a dit attends, eux là, ils ont éclaté Nice, donc ils vont se sentir installés dans l'équipe et tout. Bah, je vous sors.
Mais en fait, personne n'a compris. Ouais. D'autant plus que si vous voulez, je vais pas redire ce que j'ai écrit dans ma chronique parce que ça pourrait être mal perçu à l'oral. Mais si vous voulez mettre en vitrine ou faire jouer un peu quelques joueurs qui étaient un peu en rupture de banc, il avait le match de jeudi pour le faire. Il choisit un match qui donne accès au podium.
Oui, parce que
faire...
jeudi, il y a le dernier match de Coupe d'Europe qui sera plus rien.
Qui est un match en bois en termes d'enjeu, alors ouais. qui est sûrement un peu prestigieux, mais il pouvait faire des changements à ce moment-là. Et il trouve une formule, alors qu'il semble la chercher depuis 9 matchs. Il trouve une formule qui marche, tout le monde est enthousiasmé, et bing, il repart sur complètement autre chose et personne n'a compris.
Peut-être que pour lui, le match le plus important, c'est peut-être celui de jeudi, forcément, pour justement montrer une belle image de Saint-Étienne.
Ouais, bah on s'en fout.
Oui, nous, parce que nous, maintenant, on est de l'autre côté.
Je ne crois pas que ce soit ça.
Mais au niveau des coachs, je pense que, connaissant Claude Puel, c'est quand même quelqu'un d'assez droit. Et...
Bon, bah là, ce serait déroutant. Mets-nous des mecs de moins de 18 ans en Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je sais pas.
Moi, je suis plutôt de cet avis-là. Ce qu'on comprend mal maintenant, là, c'est on a l'impression que ça fait maintenant 2 mois qu'il est en phase de laboratoire. Il essaye des choses, il change des joueurs, ouais. et que la logique du turnover pour le match tous les 3 jours, elle ne tient plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même avoir une structure qu'on retrouve un peu. Et quand tu l'as trouvé, et tu te dis putain, ça marche. contre Nice, tu comprends pas que tu changes tout.
On change tout d'un. C'est vrai qu'il a utilisé à peu près plus de 25 joueurs sur les, ouais. Depuis qu'il est arrivé, depuis 2 mois et demi, parce que je joue tous les 3 jours.
Je crois que c'est 27.
Après, autre théorie sur la Coupe d'Europe, il veut peut-être éviter quand même de prendre un 5 ou un 6-0 à Wolfsburg.
Grosse raclée, ouais.
C'est pour parce ça que ça peut être un truc possible, quand même qui même si ça compte pas.
Ouais, c'est, pour ça. C'est pour ça que je parlais de voilà de d'avoir quand même la meilleure équipe possible et les gens les plus frais pour jouer ce match-là parce que il veut pas le prendre une tôle.
Mais alors justement, si c'est ça, il choisit à Reims de revenir avec quand on met Yann Nvila, le Yann Nvila d'aujourd'hui, j'entends, hein,
parce que pas celui de l'année dernière.
Parce que pour moi, il a été très différent à d'autres périodes de sa vie. Qui est un mec qui joue 4 mètres devant Perrin, qui a les épaules systématiquement tournées vers l'arrière. S'il veut sécuriser pour ça, qu'il le fasse à Wolfsburg jeudi, comme ça il ne prendra pas de tôle. Mais dans un match que tu peux aller gagner à Reims, qui te fait franchir un cap en Ligue 1, je trouve ça super dommage qu'il n'ait pas fait.
Et ouais, mais ce
je
match
pense qu'il a raté son pari.
Ce match de Ligue 1, justement, qui te fait franchir le cap, souvent, Saint-Étienne, ils n'arrivent pas à le gagner, ce match-là. Ouais, ce match charnière, ça fait depuis un petit moment que ce match charnière, là, hop, qui peut les faire basculer là-haut.
On espère que Claude Puel va, avec son expérience et son esprit de compétition, arriver à nous faire franchir ce cap, mais ce n'est pas encore le cas.
T'as un atelier, toi, Fred ? Un gars que t'as bien aimé ou alors tu t'alignes sur Jean avec Amouma ?
Ouais, mais moi j'aime bien le petit Camara aussi dans le milieu de terrain. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup d'allant, qui a beaucoup de volume de jeu et que lui aussi il peut, à l'image d'un Camavinga, faire une très belle saison.
Aboulé ?
Yann Nvila.
Mbila, tu me le ressors souvent.
Ouais,
quand même,
alors,
hein
je peut-être que je fais un peu
de fixette là-dessus. Moi, je fais la même fixette sur Johnny, donc je ne vais pas jeter la pierre.
Mais en fait, pour deux raisons. En fait, je pense que le compte n'y est plus, ni sportivement, ni dans l'état d'esprit. C'est ça qui me gêne presque plus. C'est que c'est un garçon qui, alors, pour moi, est systématiquement tourné vers l'arrière, comme on l'a dit, ralentit le jeu. C'est quasiment un ABS, hein, aucun risque de blocage des roues avec en cas de freinage brutal avec Yann Nvila, parce que ça va
c'est
tellement.
Beau, hein. Quelle métaphore.
Ça va tellement doucement quand ça repart de lui qu'il n'y a pas de risque de prendre de la vitesse. Et puis dans l'état d'esprit, il n'y est pas quoi. Il n'a pas un comportement dans l'investissement, même dans le langage corporel quoi. Il n'y est pas.
D'avoir perdu ses.
Alors
les deux coachs. Est-ce que c'est
Eh ben c'est sûrement ça, et c'est bien ça qui m'ennuie. C'est-à-dire qu'il faut oublier qu'au mois de mai, Yann Nvila a fait une espèce de chantage que je n'avais pas aimé à l'époque.
Oui,
et
le chantage
a cassé. Aujourd'hui. Et il avait clairement dit dans un premier temps, moi, si ce n'est pas Jean-Louis Gasset, je vais demander à partir. Et comme on lui a dit que ça ne serait plus Gasset, après il a dit, si ce n'est pas Gislain Printemps, je vais demander à partir. C'est-à-dire qu'il a quand même eu à peu près tout ce qu'il voulait, ce garçon. On ne peut pas dire que ça avait boosté ses performances. Et aujourd'hui, je trouve qu'il il est plus dans les valeurs qu'on a envie de voir, en fait, tout simplement. Voilà.
À Saint-Étienne, ouais.
Ouais.
Moi j'ai mis Diony, hein. Bon désolé.
Oui.
Ouais, on aurait pu être aussi pouvait, parce que.
Mais c'est tiré sur l'ambulance.
Ça c'est. Il paye un petit peu le poids de son transfert, l'un des plus gros transferts de Saint-Etienne. C'est vrai que 10 millions d'euros, c'est quand même beaucoup pour un numéro 9.
Je pense qu'il paye aussi des choix tactiques. Diony, il a été bon une saison. Il a été bon dans une attaque à deux, une enclume.
Ouais.
Avec Tavares qui.
Et là vous l'avez l'enclume aussi.
Oui, mais il joue jamais avec.
Justement.
Et à Saint-Étienne, il faut bien lui reconnaître, à sa décharge, qu'il n'a jamais eu l'occasion de jouer dans ce système-là.
C'est clair.
Et ce garçon n'est pas fait pour ça, tout simplement. Il n'a pas les qualités.
Tu parles de Berić, là, en l'occurrence.
Tu parles de Berić, oui.
Il n'a jamais été associé à Berić. Aucun des coachs, il y en a eu plusieurs, hein, n'a trouvé judicieux de l'associer à Berić. Bon, si c'est pour faire du Diony seul devant, je pense qu'il vaut mieux pas faire. Voilà.
On enchaîne. Alors au final, depuis l'arrivée de Claude Puel, quelle est la vraie valeur de l'équipe ? C'est assez compliqué hein, d'avoir une idée assez précise et claire, puisque bon, évidemment, il y a le turnover de Puel, ça va, ça vient. Bon, Fred, toi qui connais bien la maison là, comment est-ce que tu vois ça ? Est-ce que tu les vois sûrs dans les 5 premiers, par exemple, ou tu doutes vraiment ?
6-7 dans les 7 premiers. Après, à Saint-Étienne, ce qui est formidable, c'est ce 12e homme. À domicile, normalement, c'est une forteresse imprenable. Et Saint-Té, il faut qu'il s'appuie là-dessus. Et après, à l'extérieur, il faut qu'il prenne un maximum de points. Mais c'est vrai que Claude Puel, il est en train de chercher une formule qui gagne. Et la formule de Nice, c'est celle qui gagne. Donc il faut qu'il la garde, quitte à mourir avec ses idées, quitte à mourir avec l'équipe qu'il a en place, et quitte à se fâcher aussi avec certains joueurs. À un moment donné, les résultats vont payer. Et ceux qui sont pas contents, ils vont s'exclure d'eux-mêmes, tout simplement.
Qu'est-ce que t'en penses, Joss?
Bah, si on est un peu pragmatique, la première place elle est acquise. 2 et 3, ça va se jouer Lyon, Marseille, Lille, à mon sens.
Tu mets pas Bordeaux, toi?
Non, je mets pas Bordeaux.
D'accord.
Je pense qu'avec en plus, si King Street va au bout de son idée, oui. Je sais pas ce qu'il va rester à Bordeaux.
Ah oui,
en
c'est
janvier,
vrai qu'en janvier, si ça se trouve. Ouais.
Non, après, de 4 à 8, il y a beaucoup d'équipes.
Il y a beaucoup,
énormément. Alors, ça peut être Saint-Etienne, ça peut être plein d'autres équipes.
Il y a Montpellier, il y a Rennes, il y a Saint-Etienne, il y a du monde hein, quand même sur ces.
Oui, il y a beaucoup de monde et finalement, en termes de valeur, ça se tient. Après, moi, je suis assez d'accord avec Fred. Ce que nous, on a envie de voir, parce qu'on sort d'une optique hyper court-termiste. Avec le sauvetage de janvier 2018, Gasset, les pompiers, etc. On s'est tous un peu emballés là parce qu'on s'est dit ça y est, alors qu'en fait c'était de l'hyper court terme. On est parti sur un projet middle term avec PL. Donc on a tous envie d'entendre ce qu'ils nous disent. Je travaille sur 2-3 ans. Après, l'histoire du laboratoire d'idées, j'espère que ça ne durera pas trop parce qu'on aimerait bien quand même qu'il y ait quelque chose qui se construise dès cette année. Et là, il défait. Alors là, pour répondre à la question d'origine qui était quelle est la vraie valeur de l'équipe, moi j'en sais rien. J'ai envie de croire que ce soit celle de mercredi contre Nice. Mais j'ai aucune certitude là-dessus. Ça va dépendre des choix qu'il fera. Ça va dépendre du management qu'il arrivera à faire.
Si je puis me permettre, je ne pense pas que Nice soit un bon baromètre quand même. Parce que les pauvres niçois, oui. Ils sont, surtout à l'extérieur, ouais. Ils prennent des tôles, ils sont en perdition.
Plus, on a eu de la chance, on a joué contre une défense malin que ça, Racing
Colby. Oui, d'ailleurs, c'est les buts sur coup de pied arrêté.
Et le frangin de Lloris, là. Putain, j'avais pas vu ça depuis longtemps, moi. Ouais. Mais cela dit, il fallait le faire quand même.
Ouais, voilà, puis, c'est ça. Mais
ça n'empêche pas qu'il y a eu de la lambie dans tout le match. Si on revoit ça régulièrement, j'insiste bien sur le régulièrement, c'est-à-dire pas une fois de temps en temps, ouais, on peut être entre 4
après,
et 6.
Après, il y a beaucoup de joueurs quand même qui ne sont pas à leur niveau. Je pense à Boudbouz, il n'est pas à son niveau.
Ouais,
Villa, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'est pas à son niveau. Derrière Loïc,
Et
Dieu seul sait que j'aime Loïc depuis qu'on joue ensemble, mais Loïc, c'est plus possible.
C'est compliqué.
Ouais. C'est très compliqué pour lui. Et c'est vrai que défensivement, déjà aussi, il y a que Ruffier. Ruffier, il fait quand même ses matchs.
Ouais, tu vas récupérer Saliba. Fofana fait des bons matchs. Tu vas récupérer Saliba en janvier. Tu vas récupérer Kazri. Bon, après, il va se passer encore beaucoup de choses. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va finir par arrêter de faire du laboratoire. Et à un moment donné, surtout avec un match en moins par semaine, il va quand même, j'imagine, formaliser une ossature type.
Ah, bah oui, mais
et aujourd'hui, je suis incapable de la donner.
Les 20 joueurs.
Non plus, hein.
Les 20 joueurs qui vont tourner à peu près sur les matchs, ça sera. Oui,
je crois qu'il veut attendre aussi de voir quelle opération. Ménage, il pourra faire en
mois de janvier aussi,
en
mercato.
Janvier, parce que lui, il veut se séparer d'un certain nombre de joueurs, il a trop de joueurs. Ouais. Après, il y a ce qu'il veut et ce qui sera possible de faire, parce que Léo Lacroix, je ne sais pas qui va nous le prendre. Loïs Diony, je ne sais pas qui va nous le prendre. Après, en conclusion, on a quand même une limite forte, c'est que pour viser, alors évidemment, le podium, mais même 4-5, sans véritable bon neuf, c'est compliqué.
Ouais, bah moi, j'avais dit l'année dernière, et je pense que Berić pourrait être le numéro 9. Le vrai numéro 9 de Saint-Etienne.
J'ai une tendresse incroyable pour Robert Berić.
En 4-2-3.
Aujourd'hui, je reconnais, il a certaines limites. Il a certaines limites.
Il a des limites parce que déjà, il ne joue pas avec quelqu'un. Et puis en plus, après, il n'y a pas de centre. Lui, c'est un joueur de surface, Berić. C'est quelqu'un qui joue en déviation. Ouais. C'est quelqu'un qui peut garder le ballon. Qui peut
pourtant, des joueurs d'aile, on en a.
En remise.
Ouais, mais il centre jamais. Tu as Nordin.
Il centre pas.
Tu as Nora. Bah, le match de Nice était un bon exemple. C'est qu'il y a eu beaucoup de centres, notamment de la part de Nora.
Mais il n'y avait pas Berić.
Et il y avait Berić.
À la fin
au début.
Au début.
Alors, vous avez répondu en partie finalement à la question d'après. Êtes-vous séduit par le jeu des Verts? Oui, on en a parlé finalement assez indirectement. Ouais, enfin, une fois, ça veut dire non.
Ah bah, globalement, non. Moi, je suis pas. Ouais. C'est pas l'éclate. Hein. Clairement, depuis le début de la saison, on s'amuse pas des masses en regardant jouer les Verts. Mais, on a vu qu'ils avaient la capacité à le faire.
Oui, il y a des éclairs parfois.
Donc, je me dis, le potentiel est là. S'ils arrivent à reproduire ça, on ne s'ennuiera pas. Mais globalement, c'est quand même pas...
Mais après, le fait de jouer tous les trois jours, justement, on n'a pas... Est-ce que Claude Puel, il a le temps de retravailler un petit peu tout ce physique aussi? Parce que le début de saison, il était tellement catastrophique que...
Ça, c'est...
On sait très bien on a bien vu qu'ils n'ont pas travaillé pendant la préparation. Et donc, c'est très très long à remettre en route. Il est arrivé depuis 2 mois et demi. C'est très très long de revenir à son meilleur niveau. Et c'est vrai que peut-être que la trêve là va peut-être gâcher un peu tout ça. Mais je pense qu'il y aura une grosse, grosse préparation pour le mois de pour la fin de championnat, ça c'est sûr.
Alors Timothée Mémon, qui a fait le dernier podcast, avait un jugement un peu sévère sur Puel en disant voilà, maintenant, au bout de deux mois, on devrait voir les bénéfices du nouveau travail physique. Moi, il me semble que c'est un peu court.
C'est court.
Alors toi qui es
ah ouais, non, mais c'est clair.
Moi, je pense qu'on le verra plutôt janvier-février.
Ouais.
Voilà. Et on verra si le déficit de préparation avait tant d'importance que ça dans les résultats.
Ouais, sera comblé.
Joss, en tout cas, je te félicite parce que nous enregistrons ce podcast ici à Lyon, puisque nous sommes lundi et que ce soir, si vous écoutez le podcast de la semaine, évidemment, c'est un peu daté, mais enfin, ce soir, l'after est à Lyon. Et donc, tu es venu à Lyon tout à fait tranquillement.
Et sans gilet pare-balles, comme l'avait recommandé pourtant Jérôme Thomas.
En même temps, tu restes pas ce soir. Enfin, je veux dire,
non, je reste pas.
Tu rentres à la maison, quoi.
Oui, je vais rentrer. Je vais rentrer parce que je tiens à ma vie, tout simplement, comme Jordan.
Et je pourrais pas t'accompagner.
Oui, parce que Fred reste avec nous ce soir.
Ouais, merci enfin, lui, en tout cas. Lui, s'en prenant pas à lui, en plus, il a joué à Lyon.
Exact.
Donc, voilà.
C'est jamais. Hein.
Vous retrouvez les chroniques de Joss Randall sur peuple-vert.fr, bien sûr. Merci Joss, merci Fred.
Merci
prochain
à
podcast
merci
à faire. Ça, à la semaine prochaine.
RMC.
After Saint-Etienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.